écoutez France Culture.
Voyons voir un peu les dernières nouvelles. Valet de chambre, 42 ans, 1200 francs par mois. Il va un petit peu fort.
It's for you, Mr. Stevens.
Thank you. Mr. Stevens, how do you do?
My lord.
Very good man here, your son. He does the house great service. I don't know what we'd do without him.
Certainly, monsieur. Merci, monsieur le comte.
Jean de Maison.
Madame Affamée?
Bonne cuisinière, 35 ans, ne pouvant pas quitter Paris. Écrire AB 11 bis rue Marbeau. C'est Augustine, ça, ça y est. Elle s'en va encore d'où qu'elle vient d'entrer. Elle peut rester nulle part, celle-là.
Bon appétit, monsieur.
Notre nouvelle bonne.
Je suis bonne. Bonne à tout faire.
Une émission de Marion Thibat, réalisée par Christine Robert.
Racontez-nous un peu la vie de château.
La vie de château, mon Dieu.
Nous, travailler dans la cour.
20 ans pour rien. Sans être déclaré, sans rien. Et c'est là qu'on manque. Quand j'ai pris ma retraite, eh ben, j'ai pas pu avoir rien. Je touche 1500 francs par mois. Petite retraite. Puis mon mari, ben, il gagne 5000 francs par mois. Petite retraite, en ayant travaillé pendant 32 ans.
Oui, plus que ça.
Oui, plus que ça. Oui. Moi, j'ai travaillé 32 ans et puis toi, tu as travaillé davantage.
Aujourd'hui, les mauvaises places.
Parce que nous, dans le temps, on cherchait des places pour gagner 4 sous. On faisait des travaux durs et puis pas être payé beaucoup. Et puis, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Oui, parce que moi, je reculais pas devant le travail. Hein. Ça, c'est des places à part parce que il faut vraiment avoir besoin. Il faut avoir besoin plutôt.
En plus, de votre temps, il n'y avait pas.
Mais rien. Il n'y avait ni machine à laver, il n'y avait pas d'aspirateur, il n'y avait rien du tout. Il fallait tout faire à la main. Hein. Et puis, je suis encore là, que j'ai 80 ans.
On a travaillé dur, bien sûr, mais ça plaisait. On a sué. On n'était pas toujours à Londres. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, on n'était pas toujours assis.
Robert Guillot, vous avez habité au château, vous avez travaillé au château?
Ah oui, c'est pas un château énorme, enfin. Puis un parc tout autour. Il est tout en haut, là-haut. Quand on est dans la cour, on a tout le village. En vue, quoi. On y a logé 10 ans, là-haut. Puis j'ai travaillé 32 ans, là-haut. Alors, je faisais partie des meubles, à la fin.
Mais vous étiez domestique agricole, qu'est-ce que vous étiez?
Je faisais tout. Hein. Aussi bien aller dans les champs, dans la cour, soigner les vaches, les veaux, les cochons, parce qu'il y a eu tout. Tout faire du bois, tout ce qu'il y a à faire dans une ferme, quoi. Dans l'été, il fallait aller dans les champs, ramasser pommes de terre. J'ai été charretier. Puis après, comme j'ai eu des problèmes de jambes, j'ai plus voulu aller dans les champs, alors, j'ai fait le vacher. Puis quand ça s'est modernisé, ben, on faisait du tracteur.
Quel était votre statut?
Ben, Pour finir, c'était plutôt un coefficient. J'avais le coefficient 120, hein, je crois.
130.
Qu'est-ce que ça voulait dire, ça?
Que l'homme a toute main, quoi.
Homme à tout faire?
À tout faire, oui.
À tout faire, sauf quoi?
Coucher avec la patronne. Ouais, du respect, quand même.
Il fut un temps où les domestiques n'existaient pas individuellement. Il était d'usage de les inscrire sur le passeport de leur maître, sans lequel il n'était même pas concevable qu'ils puissent voyager. « Ce n'est pas un métier que le mien », dit au colporteur la jeune bonne bretonne débarquée à Paris, dans le square de Duras. On l'appelle ainsi pour simplifier, mais ce n'en est pas un. C'est une sorte d'état, un état tout entier, vous comprenez ? Comme par exemple d'être un enfant ou d'être malade. La condition d'employé de maison peut faire penser à une sorte de colonisation intérieure. Avec l'émergence du prolétariat, les conflits sont sortis de l'office. On a pu enfin travailler, être payé, sans être obligé d'aimer son patron. Aujourd'hui en France, il existe 900 000 employeurs particuliers. Ce chiffre est en augmentation de 20% depuis 1992. Les conflits continuent d'être intériorisés, mais l'état d'esprit a changé.
Tout de même, j'en reviens au château. Quel souvenir vous avez de cette vie ?
Mais la vie, belle.
Moi, on n'était plus heureux.
On était plus heureux que maintenant.
Oui. Tout en gagnant moins, on était plus heureux.
Ah, ce qui était difficile, c'est de se lever bien sûr le matin, partir à Betrave, revenir faire à manger pour les enfants, repartir et finir à revenir à 9h30 du soir. Puis pour nous, c'était... Bon, ben parce qu'on savait qu'à la fin du mois, bon, on allait avoir une petite somme qui allait s'adosser à la somme de mon mari, c'est tout. C'était agréable. On aimait ça. Faire la moisson, c'était le plus beau, peut-être les meilleurs jours qu'on a pu passer. Quand on est jeune, on veut toujours faire plus qu'on ne peut. Et moi, pour mon compte personnel, j'aimais bien. On n'aura plus jamais l'ambiance qu'on a eue, même avec le patron, M. Langlais. Il venait ramasser les bottes avec nous et tout. On n'aura plus jamais ce bien qu'on a eu pour moi-même. Hein. Moi, je sais que je préférais mieux aller dans les champs que de travailler, rester à la maison.
Comment il était le patron ? C'était un bon patron ?
Et c'était un très bon patron.
Ouf. Il était généreux, il était comment ?
Oh, généreux, peut-être en nous disant une petite bêtise, mais pas en argent. L'argent, c'était des petits sous dans une petite boîte, et puis ça, c'était juste... c'était... Si c'était 32 francs, je ne cherchais pas à nous donner 40 francs. Hein. C'est comme ça qu'il est devenu riche. On dit toujours comment que les patrons s'enrichissent en donnant moins. C'est vrai.
Non, sans quoi on avait du goût à ce qu'on faisait. Question de ça, oui, on faisait vraiment comme si c'était pour nous. Quoi. Et on ne regardait même pas à faire une demi-heure le soir, des fois, pour finir un travail qui était en route.
Vous travailliez combien d'heures par jour à l'époque ?
Oh, en étant jeune homme, j'ai fait jusqu'à 12 heures par jour. 10-12 heures. On ne comptait pas nos heures. Après 68, là, ça s'est amélioré. Ça nous a fait du bien, le coup de 68. Moins d'heures et puis rémunéré en conséquence.
Le patron, vous l'appeliez comment, vous ?
Ah, monsieur Anglais. On a toujours dit monsieur. J'avais pas l'appeler par ceinture aussi. Des fois, entre nous, quand il était pas là, on disait, on l'appelait Charles, parce que c'est Charles. Charles Edmond, même. Mais autrement, non, j'ai toujours été monsieur.
Robert et Geneviève, vous vous êtes sentis être des domestiques ou des serviteurs?
Ah oui, bien sûr, ça, c'est... On y a toujours été, d'abord, hein, toute notre vie, quoi.
Moi, j'ai mis en route à 13 ans. Hein. Mon père, il a plus voulu... Il a dit, oh non, plus l'école. Hein. J'allais avoir 13 ans au mois de janvier, au mois d'octobre. Allez, hop.
Vous avez commencé à travailler à 13 ans?
Oui, en 46. Puis après, il m'a abandonné, m'a mis chez bonne sœur. Il m'a dit, hop, de l'air. Pendant un an. Puis après, il m'a fait ramener, m'a fait revenir pour élever ses enfants. Puis après, lui, il est parti.
Quelle ambiance!
Oh! Une ambiance du tonnerre.
Vous avez été d'abord exploité par votre père?
Oui, largement. Oui.
Pire qu'un patron?
Oh! Pire.
Ça vous a révolté, humilié?
Humilié! Oui. Moi, puis mon premier frère, on a été vraiment l'esclave de notre père. Et ma mère aussi. Hein. Non, moi, je n'ai pas été gâté en parents. Hein. Croyez-moi.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, servir?
Servir, hein. J'ai servi, mon Dieu, à la sonnette.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Pendant 2 ans et demi.
On vous appelait avec une sonnette?
Avec une sonnette. C'était alors j'allais servir ben, chez de la rue Bénard à Amiens. À sonner, hop. J'allais servir et puis bon, ben, quand je revenais avec les assiettes vides, ben, il n'y avait plus rien dedans. Je n'avais pas à manger.
Qu'est-ce qu'ils faisaient les patrons?
Ben, ils vendaient de la miroiterie. Et puis, elle a été très sévère. Lui, non. Lui, non, il n'avait pas la parole, le monsieur. C'est elle qui était comme ça, elle était exigeante.
Et vous aviez été embauchée comme quoi?
Mais comme bonne à tout faire. Alors, je faisais tout. Cueillir des cerises, cueillir tout ce que vous voulez. Puis, je n'avais jamais le droit d'en manger. Puis comme moi, bon ben, avec mon père, j'étais comme ça, ben, je ne le faisais pas.
Vous trouviez ça anormal?
Ben oui, parce que mon père a téléphoné à mon père, puis mon père est venu me foutre une raclée, c'est qu'à le dire. Alors je trouvais comment qu'il ne fallait pas que je le fasse. Et j'ai connu mon mari, donc au mois de novembre, et puis on s'est mariés au mois d'avril. Puis j'ai quitté ces gens.
Vous êtes resté combien de temps chez eux?
2 ans et demi. Et je n'avais pas le droit de sortir. Hein.
Mais vous étiez...
Ah oui, mais l'esclave.
Enfermé. L'esclave, oui.
L'esclave. Et c'est même pas croyable comment, quand on pense comment que, on arrive à parler de ça, parce qu'on dit oh, ça n'a jamais existé, et si, ça a existé.
C'était il n'y a pas si longtemps.
Et il n'y a pas... Ah, il y a quand même... on s'est mariés en 53.
Oui, il y a 40 ans. Enfin.
Il y a 40 ans.
Il n'y a pas si longtemps.
Il n'y a pas si longtemps. Mais elle a été très exigeante. Je cueillais les pommes, il fallait ramener les pommes, il fallait ramener... Elle faisait les confitures avec moi. Je n'ai jamais mangé de confiture. Il y a des moments, bon, le midi, ben, je mangeais un œuf. C'est tout. J'ai eu faim. Sa faim, je l'ai eue.
Vous lui disiez que vous aviez faim?
Oh non, oh, il n'aurait jamais fallu dire. Une fois, on avait fait des frites, et puis bon, il avait mangé tous les frites, et puis moi, bon, je reviens, je vais éplucher une pomme de terre, elle dit, qu'est-ce que vous allez faire avec cette pomme de terre? Ben, je vais faire des frites. Pas du tout, elle a pris les pommes de terre et menée aux poules. C'est tout. J'attendais le soir. Mais j'attendais le soir.
Vous mangez pas à midi?
Non, parce qu'elle me coupait un petit morceau de pain comme ça le matin. Et il fallait que j'attende que ces messieurs dames finissent manger pour avoir que je remette de l'eau dans leur thé pour pouvoir déjeuner.
Et à midi, rien?
À midi, rien.
Et le soir?
Et le soir, oh, c'était triste. La soupe. Puis je n'en suis pas morte, hein, vous voyez, je dis toujours que j'en suis pas morte.
Et le dimanche?
Oh, ben le dimanche, c'était pareil. Hein. Puis mon père, bon ben, lui, il attendait les 5000 francs que je gagnais, 50 francs que je gagnais par mois, pour aller se payer sa mobilette. Et je n'avais rien.
Rien du tout?
Ah, rien.
Vous étiez habillée?
Oh, bien habillée, je me rappelle, cette patronne, elle m'avait dit, vous savez, pour Noël, il faudrait vous acheter une robe. Elle a dit, puis être convenable, j'ai acheté une robe, et puis il n'y avait plus que 24 francs, donc à dépenser. Oh, il m'a donné une raclée devant elle, ben, elle a été heureuse comme tout de me voir.
C'était une méchante femme?
C'est une méchante femme. Il y a des moments, j'en parle toujours avec mon mari, je dis, je le vois toujours partir avec son beau chapeau, là, avec des voilettes. Je dis, non, de non, je dis, je vois encore la mère de la rue partir. Je dis, quel bon débarras. Moi, j'aimais mieux faire du travail tout seul que d'être là avec elle.
Vous étiez la seule domestique à la maison?
Non, il venait une femme, une autre femme, comment qui venait faire, parce qu'ils étaient à deux, ils étaient monsieur, puis il y avait un fils. Alors il fallait qu'elle repasse les chemises, parce qu'à ce moment-là, on repassait les chemises, on mettait les chemises à l'amidon, tout ça. Alors cette dame, elle faisait ça, Suzanne. Mais autrement, le ménage, c'était moi.
La cuisine?
La cuisine aussi, c'était moi. Mais vous savez, c'était la cuisine économique. Hein. S'il y avait quatre beefsteaks, elle me disait, bon, ben, l'autre beefsteak, vous le conserverez pour ce soir, faire avec du riz. Alors je hachais le beefsteak que je devais manger pour faire avec du riz le soir. Oh, c'était... C'est même pas croyable. Et c'est vrai.
Vous ne sortiez jamais le samedi, le dimanche?
Ah ben non, parce que mon père, il disait toujours, bon ben, si vous pouvez l'emmener quelque part, bon, je ne sortais pas. Ou alors j'allais soigner une de ses petites filles qui allait au golf. Parce que les parents faisaient du golf à Amiens. Et puis, bon, bah, je soignais la gamine pendant ce temps-là. Mademoiselle Bertil, vous savez, ça ne peut pas s'oublier, tout ça.
Vous n'avez jamais eu un moment de joie pendant 2 ans et demi?
Jamais. Non.
Vous aviez une chambre convenable?
Ah oui, oui, mais seulement la chambre, bon, bien sûr, tout... mettons, si je recevais du courrier, eh ben, le courrier, il était ouvert avant.
Par la patronne?
Par la patronne.
Elle ne le dissimulait même pas?
Oh, pas du tout. Elle le faisait même devant moi. Elle disait, le courrier qui arrive ici m'appartient. Bon. Puis moi, je m'inclinais.
Qu'est-ce que vous ressentiez?
Ben, je sais pas. À ce moment-là, ben, je ne ressentais pas grand-chose. Je disais, il faut le faire. Qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut le faire. Puis je l'ai fait. Mais c'est vrai que ça n'est même pas croyable d'avoir eu 2 ans et demi comme ça. Et moi, j'ai demandé plusieurs fois à mon père. Je dis, écoute, il faudrait que tu viennes. T'es bien, ça te dresse.
Toujours au turbin du soir au matin. Moi j'en ai marre. Dois toujours manger de la vache enragée. Moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbue. Jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette. Moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nous que ceux qui prennent de l'eau. Moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans cette socialo, c'est pas rigolo. Et moi j'en ai marre.
On a beau dire, la campagne c'est toujours un peu triste. Les gens doivent pas s'amuser comme des fous par ici.
Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre.
point, Célestine. À Paris, est-ce que les domestiques ont l'habitude de se parfumer?
Mais madame, ça dépend. Il y en a qui se parfument et il y en a qui ne se parfument pas.
Bien ici, ma fille, on ne trouve pas convenable que les femmes se parfument.
C'est pour raison, les domestiques, vous comprenez?
Bien, madame. Au fait, est-ce que vous êtes très propre?
Ah oui, madame.
Je passe sur bien des choses, mais sur la propreté, je suis intransigeante. Avez-vous beaucoup de mémoire?
Oui, madame.
Ça, vous n'y touchez pas, c'est moi qui m'en occupe.
Bien, madame.
On voit que vous venez de Paris, ce genre de robe, ça n'est pas fait pour la campagne. Dites-moi, vous êtes au service de mon père. C'est moi qui vous ai prise, c'est vrai, mais... Enfin, il faut que vous plaisiez à mon père.
Bien, madame.
Il a des caprices, des habitudes très compréhensibles pour son âge. Tâchez d'être très gentille avec lui.
Je tâcherai, madame.
Bon. Allez changer de robe.
Et moi, j'en ai marre.
C'est vous, Célestine?
Oui, monsieur.
Célestine, Célestine. J'aime beaucoup ce prénom. Sincèrement. Mettez ça là. Mais il est un peu trop long, vous ne trouvez pas? Si vous voulez bien, je vous appellerai Marie. Marie, c'est très joli aussi. Et c'est plus court. Et puis, toutes mes femmes de chambre, je les ai appelées Marie.
Je ne sais pas si je resterai 3 jours dans cette baraque.
On dit toujours ça, puis on reste.
Quand j'étais au service, j'ai jamais dit Anna, j'ai toujours dit Annette.
Pourquoi?
Parce que les gens, ils l'aimaient pas.
Ils aimaient pas Anna?
Non.
Pourquoi?
Je sais pas.
Annette, ça faisait plus...
Ça fait la bonne. ça fait la bonne. Annette a porté les plats.
ça sonne mieux que Anna.
Ben oui, peut-être bien. C'est quand j'étais en service.
Vous avez été en service à domicile?
Mais j'ai commencé à être... Maintenant, on dit employée de maison, mais avant, on ne disait pas employée de maison, on disait des bonnes, hein, si on était bonnes. Des bonnes qui commençaient très tôt et qui finissaient très tard.
En vivant, sous le même toit que le patron?
Ah oui, 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 oui. Oh ben oui. Oh ben oui, ça c'est sûr. Eh oui, c'est comme ça quand on a des familles nombreuses dans le temps. C'était ça, hein. Il fallait prendre ce qui venait, on prenait ce qu'il y avait du moment qu'on gagnait 4 sous. On était 10 gosses, hein, chez mes parents. Il y avait 6 garçons et 4 filles, alors il fallait que tout le monde se démène pour gagner sa croûte. Quoi que ça, on était aux mines. Mon père, il travaillait aux mines. Mais pour des femmes aux mines, c'était pas terrible. Jusqu'à 15 ans, j'ai resté là-bas avec eux, et puis après, je suis partie. Rouler ma bosse.
Vous, vous êtes quelqu'un de dévoué?
Oh oui, plutôt. Ah oui, plutôt. Ah oui, oh ben oui. Oui, je voudrais pas voir quelqu'un dans l'embarras. Ben non. Non. Mais... Maintenant, je plane. Maintenant, je suis arrivée à planer à 80 ans. Mes enfants, ils me disent toujours... Qu'est-ce que tu t'embêtes? Tu pourrais là vivre tranquillement et puis planer et puis tu cours, il y a 3 kilomètres pour aller là-haut, j'y vais à pied. C'est peut-être ce qui me donne la forme, c'est ce qu'il dit mon docteur. Oh non, mais quand même, je sais pas si je reste encore longtemps parce qu'il y a des moments, je sais pas, on dirait que je sais plus ce que je dis. Je commence à déboussoler aussi.
Ça fait combien de temps que vous êtes à son service?
40 ans.
40 ans?
Ouais.
Et c'est une bonne patronne?
Il faut en avoir besoin. Quand on a besoin, on passe sur tout.
Mais qu'est-ce qu'elle a de terrible?
Être autoritaire. Elle est autoritaire, elle est volontaire, elle est égoïste. Il n'y a qu'elle qui compte. Il n'y a qu'elle. Il n'y a qu'elle, il n'y a qu'elle. Personne n'a jamais rien, il n'y a qu'elle. Et quand il faut faire quelque chose, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ah non, il ne faut pas attendre, c'est tout de suite. Non, mais ma fille, elle dit toujours, mais quand est-ce que tu vas la quitter? Quand est-ce que tu vas la quitter? Ben, je dis, attends, ça vient, ça vient, ça vient.
Au bout de 40 ans, vous lui êtes attachée, quand même?
C'est plutôt pour moi que ça me fait un but.
Oui, mais vous avez de l'affection pour elle ou pas du tout?
Je l'aime bien quand même, malgré qu'elle déraille comme ça. Je l'aime bien parce que j'ai tellement l'habitude de la voir. Tellement l'habitude de la voir, alors je l'aime bien quand même, mais elle m'aime pas. Elle m'aime pour dire que je sois là. Non, elle estime personne, non. Oh, puis les trois quarts du temps, elle me confond, elle m'appelle Maria, elle m'appelle le nom de la femme de ménage, elle sait plus, comme quelqu'un qui ne sait plus, hein.
Et comment elle était avant, quand vous l'avez connue?
Oh, avant, elle était énergique. Oh là là, elle faisait beaucoup de cuisine, beaucoup de pâtisserie. Elle était énergique, oui. À part qu'il fallait pousser la voiture du garage pour que son mari sorte, pour pas qu'elle respire les gaz qui remontent dans la maison. Pour pas mettre le moteur en route. Pas mettre le moteur en route pour pas que les gaz du moteur y remontent dans la pièce.
Et vous le faisiez?
Oh ben, elle me le disait de le faire, il fallait bien que j'y aille. Mais lui, des fois, il mettait le moteur en route et je disais, oh, on va pas quand même pousser une bagnole, c'est une grande bagnole, hein.
Lui, il était plus gentil qu'elle?
Ah non, c'était pas le même genre. Ah non, c'était... Il était bien, lui. Oh, puis il comprenait mieux le travail. Il savait bien qu'on était là pour rendre service, mais elle, c'est tout naturel. Tout ce qu'on fait, ben, t'es là pour ça, ben, fais-le.
4 janvier 1917. Charles Vézy, ayant dérobé un morceau de viande au charcutier La Perche, a été tué d'un coup de couteau par Louise Chapuis, la bonne. 13 avril 1920. Assassinat de Madame Oblitzkine Steiner, trouvée mortellement blessée sur un tas de charbon dans sa cave. Février 1968.
Non, mais elle voit tout. Elle est toujours assise. Elle voit ce qu'il y a à faire et puis elle commande sans arrêt, elle commande.
Elle n'est pas méchante, dans le fond.
Elle est autoritaire. Autoritaire, c'est un peu méchant.
En la confiant à sa future patronne, sa mère avait recommandé « Soyez sévère, domestique ». Sévère, la comtesse le sera en effet. Installée à ses débuts dans une chambre indépendante, la jeune fille doit bientôt dormir dans la lingerie sur un lit de camp. La comtesse s'était aperçue qu'il arrivait à sa bonne de sortir le soir.
Est tuée par son chauffeur, Nicolas,
pour plus de précautions, elle doit remettre sa clé de l'appartement à sa patronne avant d'aller se coucher.
Toutes les portes sont fermées à clé. Toutes les portes sont fermées à clé. Ben, vous ne la débaliserez pas. Hein. Ben, les clés, vous pouvez toujours y aller. Il n'y en a pas une sur une porte. Ah non, 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 il n'y en a pas une. Ah non, ça pour ça, c'est ce qu'il y a de pire à elle. C'est tellement qu'elle est méfiante.
Quelques jours après le drame, à la prison de la Roquette, la jeune fille dira au juge.
C'est pas toujours... facile, hein? Non, c'est pas toujours facile.
Lors du procès, interrogée par le président, la comtesse avouera pour sa part très étonnée et déclara ne rien comprendre à cette saute d'humeur de son employé. Verdict, 3 mois de prison avec sursis pour l'employé. 1933. Les sœurs Papin furent élevées au couvent du Mans. Puis leur mère les plaça dans une maison bourgeoise de cette ville. 6 ans, elles endurèrent avec la plus parfaite soumission, observation, exigence, injure. La crainte, la fatigue, l'humiliation enfantaient lentement en elles la haine, cet alcool très doux qui console en secret car il promet à la violence de lui adjoindre, tôt ou tard, la force physique. Le jour venu, Léa et Christine Papin rendirent sa monnaie au mal, une monnaie de fer rouge. Elles massacrèrent littéralement leur patronne, leur arrachant les yeux, leur écrasant la tête. Puis, elles se lavèrent soigneusement et délivrées, indifférentes, se couchèrent.
L'histoire des sœurs Papin, ça avait été tout à fait horrible. C'était deux employés de maison, les deux sœurs Papin, qui avaient massacré leur patronne et la fille de leur patronne.
Massacré à la hache.
À la hache, enfin, elles les avaient pratiquement réduites en bouillie. Et on les avait retrouvées dans leur lit, serrées l'une contre l'autre. Elles avaient été pratiquement mutiques pendant tout le procès. Ça avait absolument bouleversé tout le monde. Et ça a été très curieux parce que personne n'avait voulu admettre, au fond, que ces deux femmes pouvaient détester leurs employeurs. Et il y a eu un autre secret. Il y a prescription maintenant, puisqu'on est au-delà de 33 ans. Mais c'était un fait connu. Les rapports homosexuels de ces deux sœurs avec et la mère et la fille. Et il y avait donc un climat passionnel d'une intensité épouvantable. Et il n'en avait été rien dit au procès. Cette forme de criminalité ancillaire est, je crois, grandement liée à la condition de bon à tout faire, c'est-à-dire à cette espèce de très curieux mélange de proximité, voire de proximité quasi érotique, et d'une distance radicale liée à la condition d'employé. Simplement, je crois que la tentation d'appropriation et de se laisser approprier est grande et qu'elle peut être quelque chose qui favorise la pathologie.
On parle de dévouement.
Oui, mais alors, le dévouement, je crois que c'est l'aspect le plus positif. Hein, c'est-à-dire que y a une forme de générosité à se dévouer. Hein. Et dans cette générosité, il y a quelque chose que la personne qui se dévoue gagne. On gagne quelque chose à être généreux.
Mais on renonce aussi à soi-même.
Pas forcément. On peut se construire dans la générosité hein, et ne pas renoncer à soi-même. Je crois que là où on renonce à soi-même, c'est si le dévouement n'est pas reconnu comme du dévouement et lorsque le don n'est pas reconnu comme un don, mais est considéré comme une espèce de droit et comme une espèce de forme d'appropriation, hein, de confiscation.
Paul Denis, vous êtes psychiatre. On peut se dire que la condition de bon à tout faire, d'employé de maison ou de gens de maison, a beaucoup changé.
Elle a peut-être pas mal changé dans les conditions matérielles ou dans les conditions extérieures. D'abord, elle est moins fréquente sous la forme de la vie dans la maison même. Mais elle n'a pas forcément tellement changé que ça. Beaucoup de babysitters, par exemple, qui sont employés à plein temps dans une famille, se retrouvent en fait dans une situation très comparable sur le plan de la condition morale à celle des bonnes à tout faire d'autrefois. Avec une proximité très grande avec les personnages de la famille, un attachement très grand aux enfants dont elles s'occupent, et en même temps avec une espèce d'interdiction de s'y attacher, puisque elles ne sont là que pour quelques mois et elles seront obligées à un moment donné de laisser ces enfants auxquels à la fois elles s'attachent et en même temps elles doivent s'interdire de s'attacher. On peut penser d'ailleurs que la condition d'un employé de maison ou d'une employée de maison isolée dans une famille aujourd'hui est peut-être beaucoup plus difficile que dans les grandes maisons bourgeoises d'une certaine époque où il y avait une population d'employés de maison avec à ce moment-là des échanges sociaux à l'intérieur de ce groupe et une espèce de solidarité par rapport au patron. On parle beaucoup aujourd'hui des pathologies de l'exclusion, mais il y a aussi une pathologie de l'inclusion. Et dans une certaine mesure, la situation d'employés de maison est une situation d'inclusion sans avoir la liberté de construire un espace personnel. Et je crois que cette pathologie de l'inclusion ou cette situation d'inclusion a sa pathologie et que la situation d'employé de maison est de ce point de vue exemplaire.
Comment elle vous appelait, la patronne?
Ah ben Geneviève, hein.
Et comment elle vous parlait?
Oh, vous savez, elle prenait pas avec le doigt de la cuillère. C'était Geneviève, tu feras ci, Geneviève, vous ferez ça, puis voilà, bon ben, si...
Elle puis, changeait de comportement s'il y avait des personnes étrangères à la maison?
Oui, c'est ça.
Elle vous vouvoyait à ce moment-là?
Elle me vouvoyait, mais autrement, elle me tutoyait quand elle était toute seule. Quand il faut aller faire les deux paires de chaussures, tu feras les deux paires de chaussures. Bon, c'est bien.
Et le patron ?
Ah, patron gentil. Il n'avait le droit de rien, ce pauvre homme.
Un homme soumis ?
Un homme soumis. Il n'avait pas le droit de chocolat, il n'avait pas le droit de ceci. Alors, il y a des moments de s'en aller chez des messieurs prendre le thé. Ben, les dames, je suppose. Et puis, bon, ben, pendant ce temps-là, lui, il y a des moments, il restait à la maison. Mais tous les jours, il s'en allait travailler jusqu'à 76 ans.
Ça vous est arrivé d'être à la maison seul avec lui ?
Oui.
Et il était gentil,
il était gentil, oui, parce qu'il me disait, bon, ben, vous allez attendre que madame soit arrivée pour prendre le car, parce que c'était rue Saint-Fustien à Amiens. Puis, bon, ben, j'arrivais, il me disait, bon, ben, tenez, vous prendrez une plaque de chocolat, puis moi, vous remporterez un petit paquet de cigarettes. Mais surtout, vous ne direz pas madame. Ben, c'était comme ça.
Il vous parlait de sa femme en disant madame ?
Oh, oui. Faut pas dire à madame, hein, surtout. C'était madame et monsieur.
Comment vous les appeliez, vous ?
Ah, madame et monsieur, hein.
Et vous leur parliez à la troisième personne, ou bien ?
Oh, moi, vous savez, je répondais difficilement, parce que aussi vite, elle avait le coup pour me donner un coup de poing, de dire, faut faire ci, faut faire ça.
Et vous disiez rien du tout, vous étiez silencieuse. Puis
moi, je disais rien. Moi, j'étais silencieuse. Puis j'ai toujours été. Dans n'importe quel travail que j'ai fait, j'ai toujours été silencieuse.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand même, après coup peut-être, vis-à-vis de vos patrons ? De la haine
De la haine. J'ai toujours eu un petit coin de haine vis-à-vis d'elle, surtout. Lui, non. Lui, il était plutôt malheureux que heureux. Peut-être en argent. En argent, c'était elle qui menait à Berck. Mais non. C'était elle qui gérait tout, même ses enfants, même ses petits-enfants. Il ne fallait pas que je tutoie un enfant de 2 ans. Hein. Il faut lui dire, vous. Une fois, j'ai comme ça, bon ben, je lui ai dit, mais veux-tu être sage ? Puis elle m'a entendu, elle dit, Geneviève, on ne tutoie pas l'enfant, on lui dit vous. Ben, puis je dis, je vous voyais un enfant de 2 ans. C'était... Bon ben, fallait le prendre comme ça. Maintenant, j'ai la haine. Mais quand j'y étais, j'avais pas la haine, parce que c'était une obligation.
Vous étiez soumise ?
J'étais soumise à travailler. Il fallait que je travaille. Bon, je ne voulais pas revenir chez mes parents parce que c'était la guerre des nerfs entre les parents et le père et la mère, puis les enfants après qui sont venus. Alors, je suis parti travailler.
Mais il n'y avait aucun respect pour vous ?
Ben, jamais. Jamais. Non. Ils n'ont jamais eu tout au moins un petit respect de moi. De dire, bon, ben, quand même, Geneviève, non, jamais.
Ils vous ont méprisé ?
Ben, écoutez, c'est à croire. C'est à croire qu'elle est partie. Elle est partie, elle a fermé ses yeux. Ben, je pense comment que ça est arrivé là.
Elle est morte, c'est ça ?
Oui, oh, oui, il y a longtemps. Oh, oui.
Elle doit être en enfer.
Oui, je pense. Puis lui au paradis.
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est Marceau, monsieur le marquis.
Mais Marceau quoi ? Marceau qui ?
Marceau le braconnier.
Venez ici.
On l'a pris en flagrant délit.
En flagrant délit de quoi ?
Il a posé des collets en bordure du petit bois.
Destruction de la femme. Mais c'est un homme précieux. Faut le lâcher tout de suite.
Tu t'appelles Marceau?
Oui, monsieur le marquis.
Tu es braconnier?
Je suis plutôt renvoyeur de chaise. Dans ma partie, c'est comme dans tout. Il y a la crise. Monsieur le marquis comprendra, lui.
Marceau, tu as une tête qui me revient.
Monsieur le marquis est bien bon.
Au lieu de travailler, disons un amateur, tu n'aimerais pas mieux détruire les lapins pour mon compte?
Oh, monsieur le marquis veut m'engager? Ah ben, je dis pas non.
Alors, ça te plaît de travailler chez moi?
Ça me plaît, mais j'aurais mieux aimé travailler au château.
Pourquoi?
J'ai toujours rêvé d'être domestique.
Quelle drôle d'idée, pourquoi ça?
À cause du costume.
Je suis née ici, à Saint-Fucien, en haut dans la chambre.
Quand... Vous êtes née au château?
Ah oui, je suis née au château. J'ai vécu au château jusqu'à l'âge de 32 ans. Ouais, on était 10 enfants. J'en ai perdu 3.
Vous avez un titre de noblesse?
Oui, Madeleine. De Vitastesi.
Vous appelez comment, Madeleine?
De Vitastesi. D-E, plus loin, W-I-T-A-2-S-E, pour écrire, plus loin, T-H-E-Z-Y. Madeleine. C'était le nom de mon grand-père. Que papa n'a pas voulu continuer parce que mon grand-père était comte. Et si papa voulait être comte, il fallait qu'il reprenne compte le nom, mais en payant 2 millions. On les achète, les titres.
Du coup, vous n'êtes pas comtesse?
Non, j'ai jamais voulu. Ça, il y a une chose que j'ai jamais admise, c'est qu'ils voulaient qu'on soit mariés avec des nobles. Mais les nobles avec les nobles, oui. Non, ma mère surtout. Les nobles avec les nobles et les nobles, c'est toujours le même ça. Puis on est tous cousins-cousines. À force, ça fait plus des gosses d'amour. Moi, j'ai une famille, ils sont 3 enfants. 3 enfants et un amour.
Comment est-ce que vous avez été éduquée ici au château? Vous avez une éducation stricte?
À 6h du soir, on mangeait, puis à 7h, il fallait qu'on soit couché. Hein. On n'avait pas le droit d'être là. Puis alors...
Il fallait vous taire?
Interdit de parler.
C'était pas rigolo?
Non, c'était pas rigolo. À un moment, c'est dur. Hein.
C'est votre père ou c'est votre mère qui était comme ça?
Non, c'était ma mère.
Votre mère? C'est votre mère qui était terrible? Oh.
Alors moi, elle a toujours été vue comme ça, elle est dure aussi. Alors, elle avait ses enfants durs. Hein. Pas le droit de sortir. Elle est à la messe tous les dimanches.
Vous étiez croyante?
Oui. Si vous voulez sortir en soirée chez des hommes comme nous, il fallait demander la permission. Puis être en longue robe. Et ça, on partait à 6h du soir. Il fallait que pour nuit, on soit rentré. Ma mère, elle s'appelait Danzel d'Aumont. Eux, c'était des hauts perchés.
Dans la noblesse?
Ah oui.
C'est votre mère qui tenait la maison?
Irène, oui. Celle qui portait la culotte. Sans quoi... Mais nous, il fallait qu'à 6h du matin, on soit dans le jardin et puis... Binet, hein. Avant d'aller travailler.
Vous?
Tout le monde. Sans exception. Ou alors, t'as les vaches.
Vous aussi, vous trayez les vaches?
Ah oui, on en avait 42. Et quand il n'y avait pas tout le courant, à la main.
Oui, ça veut dire que vous n'avez pas une enfance dorée.
Ah non.
Votre famille, c'est une famille qui, petit à petit, a été ruinée, ou comment ça s'est passé?
Oh non, on est ruinée, pourquoi?
Parce que quand même, il est en mauvais état, le château.
Oui, mais on attend quelqu'un qui le fasse. Non, c'est parce que papa, il est trop vieux, qu'il a 89 ans maintenant. Il ne peut plus le faire, quoi. Et puis si on prend des entrepreneurs, ça va coûter des millions. Alors, il faut les avoir, les millions. Petit à petit, ça use, hein.
Madeleine, vous faites des ménages maintenant.
J'ai fait des ménages.
Vous n'avez pas été servie dans votre enfance?
Servie? Ah si! Il y avait les femmes de chambre, il y avait ceux qui servaient la cuisine, il y avait 14.
14 domestiques ici?
Voilà. Parce que d'un côté, il y avait ma mère et mes parents, quoi. De l'autre côté, il y avait grand-père. Il fallait servir tout le monde. les enfants qui naissaient les uns après les autres. Il y avait trois femmes de chambre, parce que maman, quand elle a couché, il fallait une femme de chambre quand même. Il y avait la femme de chambre de mon grand-père, la femme de chambre de ma grand-mère, ceux qui faisaient le ménage, ceux qui faisaient la cuisine. Oui, c'était 14 en tout. Hein.
Ça veut dire que vous avez été habitué à être servi dans votre enfance?
Ah, oui. Oui, mais enfin...
Et ça ne vous fait pas tout drôle quand même, après avoir été servi, de servir les autres?
Non.
Non. Vous n'êtes pas fière?
Non. Je suis naturelle, moi.
Peu importe vos origines.
Oh, on est une personne comme une autre. On est une personne comme une autre, de toute façon. Pourquoi on ne ferait pas les ménages?
Et votre mère, qu'est-ce qu'elle a dit?
Je travaillais. Je suis ramenée des sous. Parce que tous les mois, il fallait que je donne tant. Hein. Vous ne voulez pas croire. Hein. J'avais besoin de garder un peu d'argent pour mettre de l'essence, mais pas pour sortir. Hein. 300 francs par mois, j'avais que ça. Débrouille-toi. Alors, si je voulais m'acheter des habits, il fallait que je lui demande de l'argent.
Jusqu'à quel âge?
Le jour que je l'ai quitté.
32 ans?
32 ans. J'ai pas... J'ai tout laissé tomber ici, puis je suis partie. Ah non. Vous voulez voir le jardin? La herbe?
Qu'est-ce que c'est, ça? Faites-nous visiter.
Ça, c'est l'atelier. Voilà, je crois qu'on ne peut pas y aller plus. Hein. Non.
Ça tombe en ruine, hein, littéralement.
Ben, c'est-à-dire que tout ça a voulu. Tout ça, ça a voulu. Là, et puis là, à côté.
Puis c'est envahi par la végétation, maintenant.
Oh ben, vous savez que... Là-dedans, c'est malheureux qu'il y ait des herbes. Sans quoi, je vous aurais fait visiter le souterrain.
Le souterrain?
Oui.
Il y a un souterrain au château?
Il n'y en a pas qu'un. Il y en a qui arrivent d'Amiens et qui vont jusqu'à Longo. À cheval. Ici, c'est vraiment...
On est dans les orties, là.
Hein? Là, c'est les murs. Vous voyez qu'il les démonte aussi. Bon, je crois qu'il y a des orties aussi par là. Hein. Le grand château. Alors là, c'est un salon. Là, c'est vestibule. Là-bas, c'est un salon. Là-bas, c'est la cuisine. Vous montez en haut, vous verrez, il y a 23 pièces.
On voit les toits de l'araignée, là.
Où?
Non? C'est un carreau de cassé, alors, peut-être.
C'est un carreau de cassé. Ouh là là! Non, mais je vais aller ouvrir.
Votre papa vit seul, là-dedans, maintenant?
Non, non, il est avec un frère et une sœur.
Ah ouais. Il est là.
Bon, dis... Tu pourrais
Bonjour.
Être poli?
Hein?
T'es poli? Tu peux rentrer?
Non, j'ai pas.
Pourquoi?
Ah ouais, on peut demander.
Écoute, c'est des amis, c'est tout. Hein?
Attends, il va dire.
Qui?
Ton père!
Parce que ça va pas?
Ça va pas.
Bon, bah alors, on rentre pas.
C'est votre frère?
C'est mon frère aîné, le deuxième frère.
Ouais.
Un peu gna-gna. Il sait commander tout le monde, mais il sait rien faire. À boire, rien.
Quand vous parliez tout à l'heure du sang un peu dégénéré, vous pensiez à lui?
Bah lui, il n'y a pas moyen de... Il se mariera jamais, de toute façon. Hein. Puis j'ai ma soeur Elisabeth, c'est pareil.
Pourquoi il vous a reçu comme ça?
Il est en colère parce que je ne lui ai pas demandé avant. Mais c'est pas lui le château. C'est ma soeur Geneviève, qui est morte. Et c'est déjà passé à quelqu'un d'autre.
C'est passé à qui?
C'est passé à sa nièce.
Mais c'est lui qui vit là.
On va pas le mettre dehors quand même. On va pas le mettre à la rue pour qu'il vive vous.
Oui, mais il a l'impression que ça lui appartient.
Oui, ça lui appartient pas. Papa est encore là. Tant que papa est là, ça lui appartient pas.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce château ?
Voilà. De toute façon, il va être vendu. Je vous le dis franchement, il va être vendu.
Geneviève, pour en revenir au château, après cette vie que vous avez connue en ville, vous avez vécu comme domestique agricole au château.
Au château. Mais à Fréchancourt, c'était le travail. Il fallait travailler. Mais j'y pensais pas. Hein.
Mais vous avez été heureuse.
J'étais heureuse à Fréchancourt, malgré tout que je ne me plais pas beaucoup à Fréchancourt. Mais enfin, j'étais heureuse à Fréchancourt de travailler.
Sans être particulièrement exploité ?
Bon, on est toujours un petit peu exploité, hein. Vous savez, enfin, ça, la vie est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière.
Jean de Maison, aujourd'hui Les Mauvaises Places, vu par Geneviève Guyot, placée bonne en Picardie très jeune, avec Robert Guyot, Anna Flandre, Madeleine de Vitastésie et Paul Denis, psychiatre, à propos de l'article de Louis Le Guillan sur le rôle pathogène de la bonne à tout faire, paru en 1963 dans l'Évolution psychiatrique. Extrait de film Le journal d'une femme de chambre de Buñuel, La règle du jeu de Renoir. Documents d'archives de l'INA, Les faits divers, extrait de l'atelier de création radiophonique. Prise de son, Patrice Klein, mixage, Monique Purguière, Éric Boisset, réalisation, Christine Robert, une émission de Marion Thibault.